Je m'appelle Simon et je suis né en 1931. Quand j'étais petit, j'adorais aller au cinéma, jouer au bois de la cambre avec mon chien Bobby ou imiter ma grande sœur, Ita, qui avait 7 ans de plus que moi et qui jouait du piano et lisait plein de livres. À l'école, j'étais batailleur et à la maison aussi, je faisais pas mal de bêtises. À 9 ans, j'ai découvert les louveteaux et j'ai adoré. Je me suis fait plein d'amis. Mon totem, c'était Bombi. En 1940, on a entendu des avions allemands voler au-dessus de Bruxelles. Mon papa m'a expliqué que Hitler, qui avait déjà envahi l'Autriche et la Pologne avec son armée, voulait aussi occuper la Belgique. On a commencé à voir des soldats allemands dans les rues. Ils étaient clients de la boutique de mes parents. Ils étaient plutôt gentils. C'était l'occupation et, au début, ça n'empêchait pas les gens de vivre. Parce que les horreurs de la guerre, ça vient petit à petit. On ne s'en rend pas compte tout de suite. D'abord, les nazis ont voulu répertorier tous les juifs. Il suffisait d'avoir 3 grands-parents juifs pour être obligé d'inscrire son nom sur une liste. Les nazis disaient que c'était pour nous aider. Alors, papa nous a inscrits. On ne se méfiait pas assez. Quand on s'est rendu compte du danger, il était trop tard. Ils nous avaient obligés à coudre une étoile jaune sur nos vêtements. Ils avaient décidé de créer des écoles différentes pour les enfants juifs. Moi, ça ne me faisait pas trop peur. Quand tu es jeune, tu continues de penser à tes copains, à t'amuser. Tu dis que c'est peut-être normal tout ça, puisque c'est la guerre. Tu t'habitues un petit peu, ou bien tu ne veux pas croire tout ce qu'on raconte. Puis, les nazis nous ont confisqué la radio. On ne pouvait plus écouter les informations. Ils ont fermé le magasin. Ils ont commencé à boucler des quartiers et à mener des rafles. À arrêter des gens, juste parce qu'ils étaient juifs. Des amis scouts nous ont cachés. On a quitté notre maison, notre jardin, notre quartier, pour vivre enfermés, à 4, dans un 3 pièces à Woluwe. En février 1943, au milieu de l'hiver, mon père est tombé malade et a dû rester à l'hôpital. Le 17 mars 1943, il est 9 heures du matin. On est à table, maman, Ita et moi. On entend sonner. La porte de l'appartement s'ouvre. 2 Allemands en civil surgissent. Ma mère montre ses papiers. Ils demandent où est mon père. Elle leur dit qu'il est mort. On fait notre valise. Ils attachent Bobby à la rampe de l'escalier et on les suit. Les policiers nous ont emmenés dans une cave. Sur les murs, il y avait plein de noms et de dates qu'avaient gravés d'autres prisonniers avant nous. On a passé la nuit là. Jusqu'au lendemain, en fin de journée, nous n'avons rien reçu, ni à boire, ni à manger. Quand ils nous ont fait quitter cette cave, nous étions environ 50, tous attrapés en 2 jours de rafle. On nous a fait monter dans un petit camion bâché pour que les gens dans la rue ne nous voient pas. Ils nous ont conduits à la caserne d'Ossin, à Malines. Là, on nous a mis en rang dans l'immense cour intérieure. Chacun avait emporté dans ses bagages ses affaires les plus précieuses, des bijoux, des timbres de ravitaillement, des clés, des photos de famille, des lettres. On devait passer un à un devant une table et leur donner tout ce qu'on avait emporté. Ils fouillaient les chapeaux, décousaient les doublures, ils hurlaient et on entendait aussi les cris de ceux qui essayaient de résister. Moi, on m'a juste demandé mon nom. Et on m'a donné un carton avec un numéro de transport. le 1234, que je devais porter autour du cou. Ma mère avait reçu le 1233. On nous emmena dans la salle numéro 18 au deuxième étage. Ita reçut le numéro B274, parce qu'elle avait pu choisir, à 16 ans, de prendre la nationalité belge. Elle fut emmenée dans une autre salle. Les autorités et la population savaient que cette caserne était un centre de rassemblement. Mais personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur. Des camions arrivaient deux ou trois fois par semaine, et en 2 ans, 25 000 personnes, des juifs, mais aussi des tziganes, y séjournèrent avant d'être déportés. C'était une salle d'attente avant la mort. Mais on ne voulait pas le croire. Il nous semblait impossible que l'on fasse tant de mal à tant de gens à la fois. Notre salle comptait 100 couchettes superposées. Pas de WC, juste des troncs. Une casserole d'eau chaude servait aussi bien de soupe que de café. On nous donnait un peu de pain. Les plus chanceux recevaient des colis de leurs amis. On devait se présenter à l'appel, de nuit comme de jour, sous la surveillance de SS qui avait une cravache à la main ou un pistolet à la ceinture. Moi, j'étais déjà heureux de ne pas être séparé de ma mère et de ma sœur. Avec quelques copains, nous nous entraînions à nous évader en sautant de la couchette supérieure. On est resté là un mois. Puis, des rumeurs ont parlé d'un prochain départ. Un dimanche, on nous a dit que nous partions pour un camp de travail à l'est. On a fait la queue longtemps avec ma mère. Ma sœur, accoudée à sa fenêtre, nous regardait. On ne déportait pas encore les Belges. Quand ils ont appelé nos numéros, on est monté dans un wagon. À l'intérieur, de la paille. La porte s'est refermée. On était 50 prisonniers. Le verrou a claqué. Nous avons attendu plusieurs heures avant que le train ne démarre. C'était le 19 avril. Mon père, ce jour-là, avait tout juste 45 ans. J'ai fini par m'endormir. Pendant mon sommeil, des prisonniers ont réussi à forcer la porte de notre wagon. Et quand ma mère m'a réveillé, elle était grande ouverte. Ma mère m'a dit « Saute !» Elle m'a lâché. J'ai sauté. J'attendais ma mère quand j'ai entendu que le train s'arrêtait tout à fait, puis des cris en allemand et des coups de feu. Si j'avais su que maman ne sauterait pas, je serais certainement resté avec elle. J'ai couru, toute la nuit. Le matin, tout crotté, je suis arrivé dans un village et j'ai sonné à une porte. La dame qui m'a ouvert m'a conduit chez le garde champêtre, qui m'a conduit chez le gendarme Jean Hartz. Il avait entendu parler d'un incident avec le train des Juifs et l'a deviné. J'ai eu très très peur. Qu'allait-il faire de moi? Jean Hartz et sa femme ont proposé de me cacher, mais je voulais à tout prix retourner chez mon père. Alors, il m'a conduit à vélo à la gare. Je redécouvrais le ciel, les champs, les arbres, la liberté. D'autres personnes ont sauté du même wagon que moi, mais elles ont eu moins de chance. Je dois la vie à ceux qui ont ouvert la porte du wagon, à cette dame qui n'a pas refermé la sienne, à ce gendarme. Chacun a trouvé le courage de faire un petit geste en risquant sa vie. Et ce sont tous ces petits gestes qui, mis ensemble, m'ont sauvé. Après, j'ai vécu caché dans deux familles. J'ai lu, aidé au ménage, étudié, seul, pendant presque 1 an et demi. Je n'ai revu mon père que 3 fois. On s'écrivait beaucoup. Il me parlait de l'espoir, de vivre à nouveau un jour à 4 réunis. Mais la guerre n'était pas finie. Ita est parti de Dossin après y avoir passé 6 mois. Dans une de ses lettres, elle demandait des vêtements d'hiver pour aller travailler en Hollande. Elle gardait encore espoir. Son malheur, écrivait-elle, était de partir seule. Puis, il y a eu la libération. Enfin! Chacun ne pensait qu'à faire la fête. J'ai pu rejoindre mon père. Tous les deux, nous attendions ma mère et ma sœur. La radio a très vite parlé de camps de concentration. On découvrait l'existence des chambres à gaz. Le 9 juillet, mon père mourait dans sa maison d'Etterbeek sans avoir reçu de nouvelles. Maman est morte le 22 avril 1943 et Ita le 22 septembre 1943, 2 jours avant son 19e anniversaire. Elles ont toutes les deux été gazées dès leur arrivée au camp. Aujourd'hui, je suis grand-père. Et mes petits-fils ont l'âge que j'avais quand j'ai sauté du train. Je vois tous les jours dans le monde des signes d'intolérance. Partout, même chez nous, l'homme semble avoir peur de l'autre, de la différence, alors que là se trouve la richesse de l'humanité. Si je raconte mon histoire, c'est pour montrer le danger de l'indifférence. C'est pour qu'on reste vigilant, qu'on ne dise plus qu'on ne savait pas, que c'est impossible, que cela ne nous concerne pas, ou que l'on n'y peut rien. Un geste d'exclusion par-ci, une interdiction par-là. La guerre n'est pas une sorte de monstre préfabriqué qui vous tombe dessus soudain sans que rien ne l'annonce. L'horreur est souvent l'accumulation d'une multitude de petites choses sournoises. Heureusement, un geste de solidarité peut beaucoup. Aussi. Celui qui sauve une vie sauve l'humanité entière, dit le Talmud.